tous au spectacle. Tout ce spectacle, l'actualité du spectacle vivant à Toulouse et dans la région. Une émission présentée par Emmanuel Gaillard.
Bonjour à toutes et à tous. Ce soir sera donné dans le cadre intimiste du Petit Théâtre Saint-Exupère de Blagnac, dans le cadre de la saison de Lissud et des rencontres de musique baroque et ancienne, un récital de mandoline en solo. Voilà quelque chose d'assez inhabituel. En effet, la mandoline, c'est un instrument très connu et associé étroitement à la musique populaire italienne et aussi au fameux concerto de Vivaldi, l'un des enregistrements de musique classique qui a été le plus vendu au monde, il y a de cela déjà quelques années. Pourtant, la mandoline est un instrument qui reste à découvrir avec un répertoire beaucoup plus vaste et beaucoup plus diversifié que ce que l'on imagine. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Julien Martineau. Bonjour Julien.
Bonjour Emmanuel.
Tout ce spectacle, l'interview.
Alors Julien, tu habites Toulouse. En quelques mots, tu es l'un des mandolinistes internationaux les plus remarquables et passionnants d'aujourd'hui. Tu as une âme d'aventurier, un appétit de chercheur qui te fait embrasser la singularité de ton instrument, mais en lui offrant de plus larges horizons que simplement un répertoire qui est certes vaste, mais peut-être pas immense. Certes, il y a de la musique de Bach et de Vivaldi, mais tu t'aventures avec de la création contemporaine, et puis tu vas faire des transcriptions de diverses œuvres de diverses époques et qui vont jusqu'à aujourd'hui avec du Jan Tiersen notamment. Tu fais de la musique de chambre avec beaucoup de grands artistes. Tu accompagnes des chanteurs aussi célèbres que Nathalie Dessay ou Sabine de Vielle. Et puis, tu as enregistré des œuvres pour mandoline solo, dont un certain Calacci, le napolitain Calacci, qui est considéré comme le Paganini au fond de la mandoline. Alors voilà, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Tu peux nous dire en quelques mots l'histoire de la mandoline, puisque encore une fois, on l'associe étroitement à Vivaldi et à la musique populaire italienne. Mais au fond, c'est quand même beaucoup plus que cela, la mandoline.
Alors oui, c'est beaucoup plus que cela, mais en même temps, c'est déjà un bon résumé, puisque Vivaldi est un peu l'origine de la mandoline napolitaine. C'est-à-dire que ces concertos qui ont été vendus à plus d'un million d'exemplaires dans le monde, donc qui font que c'est pratiquement un tube aussi puissant que les quatre saisons, a été composé en 1720. Donc 1720, c'est, on peut dire, les débuts de la mandoline sous la forme que je joue. Alors bien sûr, il y a plein d'ancêtres de la mandoline. On peut remonter comme ça jusqu'au XIIIe siècle avec la guiterne. Mais donc, on peut dire que le lien de la mandoline avec Vivaldi est très étroit. Ça nous a apporté une grande notoriété, puisque Vivaldi a ce côté entre musique savante, puisque c'est du classique, mais en même temps très populaire, puisque on adore tous Vivaldi pour son côté immédiatement accessible. Et puis, la mandoline s'est développée, c'est-à-dire que elle a été un instrument très, très, très en vue à Paris dans les années 1760. Donc il y a énormément de compositions à cette époque, de compositeurs peu connus. Si je dis Gabriele Leone, Pietro Denis, etc. Bon, personne ne connaît, sauf les spécialistes. Voilà, mais donc on a eu un grand mouvement. Et puis, elle est arrivée à Vienne au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, début XIXe. Et là, on a eu la chance d'avoir des compositeurs comme Hummel qui ont composé pour mandoline et même Beethoven. Donc voilà. Et puis effectivement, on arrive ensuite au XXe siècle. Et puis là, tous les grands compositeurs l'ont utilisé. Alors pas forcément en instrument soliste, mais pour avoir sa couleur dans l'orchestre. Donc trois petites notes par-ci par-là, Stravinsky, Schoenberg, Mahler, etc. Et puis aujourd'hui, on peut dire que la mandoline fait partie des instruments rares, entre guillemets, très dynamiques. Au même titre que l'accordéon. Alors, on peut dire, en réalité, c'est pas un instrument rare, ou la guitare, mais en tout cas, dans le classique, des instruments qui sont pas les instruments nobles et qui ont un essor très fort. Et donc, la création pour mandoline ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui.
Et tu en es l'un des acteurs, en fait. Hein. C'est bien ça. Tu travailles avec des compositeurs d'aujourd'hui sur des projets d'aujourd'hui.
Exactement. On est aujourd'hui, j'allais dire, un certain nombre de mandolinistes à travers le monde à être très actifs, à former une belle communauté. Et chacun de nous, on essaie, en fait, de commander des œuvres à des compositeurs donc, d'aujourd'hui qui permettent d'élargir le répertoire et avec des œuvres qui sont parfois assez puissante. Et je pense notamment à Carole Beffa, qui est un compositeur qui a eu 3 victoires de la musique classique compositeur de l'année et qui a écrit un concerto pour mandoline qui est une œuvre, je crois, très accessible et vraiment moderne, mais d'aujourd'hui, voilà, qui peut faire aimer la musique classique.
Très bien. Alors, tu joues avec des grands orchestres symphoniques, avec des orchestres baroques, tu fais des récitals avec piano, avec des chanteurs, mais quid du récital en solo qui va avoir lieu donc ce soir?
Alors, le récital solo, ça reste, comme pour le violon, en réalité, une sorte d'alpha et d'oméga du répertoire. C'est-à-dire que c'est le répertoire qui nous permet d'aller sur les cimes. Voilà, c'est de la haute montagne. Le solo, c'est le moment où la mandoline devient un petit orchestre. Parce qu'évidemment, c'est pas du solo où on joue juste une petite mélodie. L'idée, c'est d'avoir une polyphonie sur un instrument à 4 cordes. Quand je dis polyphonie, c'est presque d'entendre 2 ou 3 mandolines en même temps. Et de pouvoir recréer tout un univers, mais seul. Voilà. D'ailleurs, je vais jouer ce soir la Chaconne de Bach, qui est considéré par beaucoup comme l'Everest du répertoire solo, mais pour tout instrument en fait. Hein.
C'est pour le violon, c'est une transcription.
C'est une transcription, mais au départ c'est pour le violon. Et Bach, dans son recueil de sonates et partitas, puisque la Chaconne est extrait de sonates et partitas, il y en a 6, il a écrit en dessous « Sei solo per violini ». Et donc ça veut dire 6 solos pour violon, sauf qu'il y a une petite erreur sur ça. C'est-à-dire que normalement, c'est 6 soli au pluriel, on met un i en italien. Et donc là, en fait, si on traduit exactement, ça veut dire « si je suis seul pour violon ». Je suis seul pour violon. Ça veut dire que quelque part, il y a cette idée d'être seul au monde et de recréer un univers. Voilà, et ça, j'aime beaucoup cette petite anecdote parce que ça résume tout. Voilà. Donc, le solo, si vous ne connaissez pas la mandoline, pareil, un solo de violon, c'est l'occasion d'entendre quelque chose d'extrêmement pur. Quoi. Voilà, on va découvrir, j'allais dire, une neige qui n'a jamais été foulée par personne. Voilà. On est dans les altitudes élevées. Voilà.
Bon, c'est à la fois donc un défi et finalement un exercice fabuleux, tant pour l'interprète que pour l'auditeur, au fond.
Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, par contre, je tiens à rassurer aussi les auditeurs, c'est-à-dire que j'ai construit le programme pour que ce soit quand même confortable, c'est-à-dire qu'on ne part pas sans oxygène. On redescend de temps en temps.
Alors, c'est quoi l'oxygène dans un récital solo?
Eh bien, c'est par exemple, tu en parlais tout à l'heure, Ian Tiersen. Oui. Donc, Ian Tiersen, c'est étonnant de le trouver dans un récital de musique classique, puisque c'est le compositeur d'Amélie Poulain. Sauf que Ian Tiersen, il faut savoir que c'est un excellent musicien, multi-instrumentiste, il joue très bien du piano, très bien de la guitare, très bien du violon. Et je l'avais entendu jouer, notamment à l'époque d'Amélie Poulain, parce que je l'avais accompagné pour une grande tournée, un solo qui s'appelle « Sur le fil ». Et à l'époque, je m'étais dit, il faut absolument que je joue ça, puis je ne l'avais jamais fait. Et tout à fait par hasard, j'ai réécouté une vidéo de lui, et je m'y suis mis, et donc il y aura sur le fil dans le programme ce soir, et c'est une bouffée d'oxygène. Il y a d'autres petites bouffées d'oxygène comme ça, c'est-à-dire qu'on va explorer des territoires vraiment, j'allais dire, de l'extrême, avec du funambulisme aussi, des choses comme ça, et puis retomber aussi dans des œuvres extrêmement populaires, et ça fait un mélange que moi j'aime beaucoup.
Ah oui. Thank you. Alors, que venons-nous d'entendre, Julien ?
Alors, c'est le concerto de Hummel. C'est le dernier mouvement, un rondo. C'est un des plus beaux concertos du répertoire, donc contemporain de Mozart. Hummel était un ami de Mozart et de Beethoven. D'ailleurs, l'histoire raconte qu'il a une relation un peu tumultueuse avec Beethoven parce que les deux avaient une forte personnalité. Mais on lui doit donc une sonate et un concerto assez magnifiques. Et dans ce concerto, on a pu entendre quelques moments justement seuls avec une cadence que j'ai composée qui reprend le thème du premier mouvement.
D'accord.
Et ça, c'est un enregistrement qui est cher à mon cœur parce que le disque n'est pas encore sorti. Ce sera le 29 septembre et c'est avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Donc c'est un grand honneur pour moi de pouvoir jouer ce concerto avec un tel orchestre.
Et merci de nous en avoir donné la primeur en quelque sorte. Alors reparlons de ce récital en solo. Il y aura aussi des préludes de Calace qui est donc, si j'ai bien compris, le Paganini au fond de la mandoline.
Exactement. C'est le personnage sans lequel je n'aurais pas fait de mandoline. Je crois qu'on peut le dire comme ça, parce que Calace, en plus d'être celui qui a révolutionné la technique instrumentale, c'est-à-dire qu'il a composé des choses parfois perçues par les mandolinistes comme injouables, mais en fait elles sont très jouables, mais c'est surtout qu'il a un sens musical, il a un don de mélodiste extraordinaire. Parce qu'il n'a pas écrit que des pièces très virtuoses et très difficiles, il a aussi écrit des petites pièces, des tarentelles, des mazurkas. Ce qu'il caractérise, en fait, c'est vraiment une fraîcheur. C'est une sorte de Puccini aussi, en plus d'être un Paganini. Il a ce sens mélodique qui est incroyable, qui fait qu'il est touchant, il est sincère. Parfois, je le compare à quelqu'un qui n'est pas connu. Donc, vous allez me dire, pour les auditeurs, c'est un petit peu, c'est un petit peu bizarre.
Calace n'est pas très connu quand même, voilà, c'est bien dommage.
Je le compare à Barrios.
Ah oui.
Barrios pour la guitare.
Pour la guitare.
C'est un compositeur du même niveau, extraordinaire. Et souvent, on dit de Barrios que c'est le Chopin de la guitare. Bah voilà, on pourrait dire ça aussi de Calace. Voilà, Paganini, Chopin, des grands virtuoses. Et voilà, de la très belle musique.
Très bien, donc voilà, ça c'est pour le récital de ce soir, donc qui aura lieu dans le cadre d'Odissude à Blagnac au Petit Théâtre Saint-Exupère à 20h30. Je crois qu'il reste encore quelques places. mais renseignez-vous, il est encore temps. Après tout, on peut se décider du soir, du jour, du matin pour le soir, comme si on allait au cinéma. C'est possible en matière de spectacle vivant, il faut pas hésiter. Alors, quels sont tes projets ? Donc là, tu parlais de ce disque avec l'Orchestre du Capitole qui est déjà enregistré, qui est déjà dans la boîte.
Oui.
Est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Alors, j'ai d'autres projets, d'autres spectacles, en fait, qui sont en train de tourner. Il y a un conte sur l'Ukraine avec Julie Depardieu, un conte qui est composé par Thierry Huillet, écrit par Clara Serna. C'est un drôle d'histoire, en réalité. Ce conte a été écrit bien avant la guerre en Ukraine et il est tristement d'actualité, mais c'est donc... toute l'histoire en fait de cette zone ukrainienne qui ne s'appelait pas forcément l'Ukraine à l'époque, etc. Et notamment au niveau de la ville de Lviv. Et ça raconte cette histoire en passant de Genghis Khan à la Horde d'Or, en passant par tous les princes et les princesses qui ont vécu à cette époque. J'ai aussi un projet, un magnifique projet avec Geneviève Laurenceau, qui est bien connue des Toulousains.
Qui était l'ancienne premier violon solo de l'Orchestre du Capitole.
Exactement, on a un trio qui s'appelle Baroquissimo avec Tristan Cornu au violoncelle. Donc là, c'est une formation justement où on a commandé des œuvres à des compositeurs d'aujourd'hui pour faire vivre un répertoire nouveau. Et puis, on a aussi des transcriptions dans ce programme. Et puis ensuite, j'ai d'autres projets, notamment avec des chanteurs. Un ami chanteur qui s'appelle Florian Sempé, qui est pour moi l'un des plus grands barytons français.
Fabuleux, oui.
Voilà, et qui d'ailleurs participe à l'enregistrement au prochain album qui est avec l'Orchestre du Capitole. Et on l'accompagne, alors pas avec l'orchestre, mais en plus petite formation, dans du répertoire napolitain notamment, et Florian est extraordinaire, donc on a des projets aussi avec Florian, et puis j'ai aussi des projets avec le guitariste Philippe Mouratoglou, notamment on va jouer à Prades pour la première fois l'intégrale des œuvres pour mandoline et guitare de Paganini.
Ah, très bien. Bon, c'est tout ça est passionnant, et on voit bien qu'effectivement tu es sur plein de fronts différents, dans des formes et des modalités, des compagnonnages artistiques très très diversifiés. Et puis alors tu as encore une autre casquette, c'est celle de directeur artistique de deux festivals, et notamment du Festival de Toulouse, dont la première édition a eu lieu en juillet dernier, l'été dernier. Et je crois que là tu es à deux doigts de révéler ce que sera la seconde édition. Est-ce que tu peux déjà en dire un petit mot ?
Et oui, on a le grand plaisir en fait d'organiser cette deuxième édition du 1er au 13 juillet. Pareil, le cap artistique est le même que l'an passé, c'est-à-dire que l'objectif c'est de pouvoir faire découvrir la musique classique, le jazz, mais aussi de mélanger avec quelques courants plus inattendus comme la pop, notamment avec l'orchestre du Capitole, et d'avoir en été des bonbons, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas le jazz, mon objectif c'est qu'il vienne à un concert, qu'il puisse entendre un artiste fabuleux, donc on a des artistes vraiment exceptionnels, et qu'il puisse ressortir du concert en se disant « j'ai loupé quelque chose et maintenant je vais aller écouter des concerts de jazz ». Et pareil pour le classique, etc. Donc si je peux révéler peut-être une tête d'affiche, on va dire que Philippe Catherine va ouvrir le festival avec l'Orchestre du Capitole, avec des chansons entièrement orchestrées de manière sublime par Lucas Henry. Et on va avoir donc un Philippe Catherine symphonique qui va nous enchanter et même nous amener aux portes du paradis, puisque c'est un peu l'intitulé du concert.
D'accord, tout un programme.
Philippe Catherine est aux anges.
Est aux anges, et on sera aux anges avec lui, parce que c'est un personnage et un artiste absolument hors norme, qui est un espèce de poète de l'existence, un personnage un peu lunaire aussi, un loufoque, enfin voilà, c'est une personnalité, on se réjouit avance.
Puis c'est tellement, il est tellement dans l'air du temps, il capte des choses, il est incroyable. Et puis, une autre tête d'affiche exceptionnelle qui nous fait l'honneur de revenir à Toulouse après de très très nombreuses années d'absence, c'est Roberto Alagna, qui sera en récital au Théâtre du Capitole, donc la maison qu'il a révélée à l'époque de Michel Plasson, avec des enregistrements si extraordinaires, Carmen, etc. Donc voilà, je n'en dis pas plus.
Bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est un véritable scoop pour les auditeurs de Radio Présence qui nous met l'eau à la bouche, si j'ose dire. Vous allez donc présenter le programme du festival bientôt.
Donc la conférence de presse, c'est le 10 mai et on a une ouverture de billetterie au même moment, donc ça approche.
Très bien. Bon, on a pris bonne note de tous ces rendez-vous, voilà. Et pour l'heure, eh bien, merci en tout cas beaucoup, Julien, pour ta venue ici. Donc, on se régale à l'avance de tous ces rendez-vous et encore une fois pour déjà ce récital de solo qui sera donné ce soir.
Mais merci beaucoup, Emmanuel. Et puis, merci de ta confiance aussi, puisque tu avais la casquette de directeur d'Audisud pendant toutes ces années, de grand directeur, voilà, que tous les artistes de Toulouse et puis de France et d'ailleurs connaissaient. Et j'ai l'honneur d'avoir été programmé par toi dans ce récital solo. Et voilà, j'espère que les spectateurs seront heureux ce soir.
Oui, j'en suis absolument persuadé. Et puis voilà, c'est une rareté. Je crois que le récital solo, c'est un espèce d'Everest. Mais c'est une expérience pour les spectateurs, en fait, c'est ça.
Oui.
Et c'est finalement, tu en as rarement l'occasion. Hein. Le plus souvent, tu es avec des orchestres ou avec d'autres artistes. Hein. Mais le récital solo, au fond, c'est plutôt une rareté, non ?
Oui, c'est une rareté. Et puis c'est un petit peu quand même le plaisir. C'est-à-dire que tout instrumentiste voit le solo comme le Graal.
Voilà, c'est bien ça, c'est un excellent résumé. Merci Julien.
Merci Emmanuel.
Au plaisir. Au revoir.
Au revoir.
Ce spectacle, les rendez-vous à ne pas manquer.
Alors voici ma sélection des spectacles à ne pas manquer ces prochains jours. Il y a énormément de spectacles un petit peu partout, donc évidemment, ma sélection n'a rien d'exhaustif. Renseignez-vous dans vos théâtres de proximité, car tout le monde, toutes les salles sont en pleine activité en ce moment. À Toulouse, eh bien, j'ai vu avant-hier soir le merveilleux spectacle de danse contemporaine signé par Pierre Rigal. C'est sa dernière création qui s'intitule « Hasard ». C'est encore donné les 14 et 15, donc ce soir et demain soir, au Théâtre de la Cité à Toulouse. En matière d'humour, eh bien, c'est l'inénarrable François Morel qui viendra à l'aria de Cornebarieux dans son dernier spectacle qui s'intitule « Tous les marins sont des chanteurs » les 18, 19 et 20 avril. C'est donc une fantaisie, c'est un récital aussi de chansons sur un marin breton poète imaginaire. Voilà, c'est savoureux, bien entendu, c'est la signature de François Morel. Et puis demain, donc samedi 15 avril, à la Halograin, ce sont les éléments, le chœur de chambre, les éléments qui fêtent leurs 25 ans avec de la musique anglaise de toutes les époques et notamment le fabuleux Dixit Dominus de Handel, feu d'artifice vocal. Le lendemain au Théâtre du Capitole, ce sont les Sacboutiers de Toulouse qui donneront un nouveau concert de musique de la Renaissance. Voilà donc pour quelques rendez-vous à Toulouse. En région, le 22 avril à Marciac, le même récital de François Morel sur le marin poète sera donné à nouveau. Et puis, à la fin du mois, dans le Gers, donc, Welcome in Tzigani, c'est un festival très, très étonnant sur le thème de la musique tzigane et qui sera donné donc à la fin de ce mois à Seyssan. Et puis, d'autres rendez-vous ont lieu un petit peu partout, notamment à Tarbes, au Parvis, donc à la scène nationale à Ibos. La dignité des gouttelettes, c'est un merveilleux spectacle jeune public. Et puis, à Albi, le 20 avril, c'est Artefact, un spectacle musical signé de l'ensemble La Marmonie qui sera donné à la scène nationale. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et une très bonne semaine. À très bientôt.